Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1. Et comme chaque jour, on est très heureux de vous retrouver de si bon matin. L'avenir appartient, paraît-il, à ceux qui se lèvent tôt.
Oui, 5h57, c'est très tôt. L'avenir est donc à vous, chers amis. On partage ensemble la prochaine heure et demie, mardi 22 mars, dans l'actualité, Julien.
Le décès d'Ivan Colonna, 3 semaines après son agression en prison, le militant indépendantiste et assassin du préfet Irignac était depuis dans le coma. On y revient, évidemment, dès le début du journal de 5h.
L'autre actualité majeure, c'est la guerre en Ukraine. Et vous nous proposez ce matin un éclairage sur une toute nouvelle arme, Julien.
Dont vous avez peut-être entendu parler ces derniers jours, et pour cause, l'armée russe on a utilisé à deux reprises ce week-end. Il s'agit du missile hypersonique qui, comme son nom l'indique, va très vite. On parle là d'un projectile filant à Mach 10 minimum, soit 10 fois la vitesse du son. Au compteur, ça donne 12 000 km/h.
Bref, c'est une arme redoutable qui inquiète les Occidentaux.
Oui, parce que contrairement au missile plus classique, entre guillemets, celui-là est à la fois indétectable et inarrêtable. Ajoutez à cela que seuls les Russes maîtrisent cette technologie pour l'heure et vous avez un léger vent de panique dans les états-majors occidentaux. Et c'est bien là l'objectif premier de cette arme, faire oublier les piètres résultats de l'armée russe après bientôt un mois de conflit.
On en parle à 6h10 avec le spécialiste en aéronautique Xavier Tittelmann.
C'est aujourd'hui l'événement annuel du monde de la gastronomie.
La cérémonie du guide Michelin pour la première fois, elle ne se tiendra pas à Paris, mais en région, à Cognac, en Charente. On connaîtra donc dans l'après-midi qui seront les nouveaux étoilés.
Cette étoile qui fait tant rêver les chefs avant son obtention et qui les fait trembler ensuite de peur de la perdre.
Et oui, en attendant de savoir ce que leur réserve le célèbre guide rouge, nous serons à 5h45 avec Colline Folquier, chef du restaurant Signature dans le 8e arrondissement de Marseille. Elle a reçu sa première étoile l'an dernier, en plus d'être désignée meilleure jeune chef 2021. Rendez-vous à 5h45.
Et puis on terminera avec votre partition, Omblin.
C'est à elle qu'on doit Jardin d'hiver, écrit avec Benjamin Biolay.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières.
Chanson reprise par Henri Salvador, la chanteuse au style unique entre pop et folk mélancolique, Karen Anne, à 6h20.
Vous avez l'essentiel du programme, soyez tous les bienvenus. On commence avec la météo. Bonjour Anissa Dali.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Est-ce que le superbe temps très sympa d'hier va se poursuivre?
Alors oui, le beau temps se poursuit et ça sera même encore mieux aujourd'hui qu'hier. C'est-à-dire qu'on aura vraiment un soleil radieux dans un ciel sans aucun nuage pour une grande partie de la France, parce que vous le savez, en météo, il y a toujours un mais avec des petites exceptions. Je crois que c'est comme dans les formules de maths, hein, il y avait des exceptions à l'époque. Bah là aussi, il y a des petites exceptions. Alors, ça va un petit peu mieux sur le Languedoc-Roussillon, mais il y aura des nuages. Bon, alors, on a également du soleil dans le sud-ouest, mais c'est là que le temps sera le plus contrarié, avec un léger voile nuageux entre l'Occitanie et la Gironde. Quelques gouttes possibles cet après-midi sur le Pays Basque, mais rien. Un temps sec, beau et ensoleillé partout ailleurs. On a le vent quand même qui reste très présent, ce vent d'autant qui va souffler jusqu'à 110 km/h cet après-midi jusqu'aux plaines toulousaines. Un petit peu de fraîcheur, forcément on n'est que fin mars, hein. Moins 2 à Charleville-Mézières ce matin, 0 à Clermont-Ferrand, 5 à Pau, 7 à Paris et Rennes, 10 à Boulogne-sur-Mer et cet après-midi, comme hier, 12 à 20 degrés et nous aurons 19 à Lille.
Donc c'est une bonne journée pour faire une petite cure de vitamine D.
Ah bah là, faut y aller. Alors, je veux pas vous gâcher le film, mais ça va être comme ça toute la semaine.
Ah, merci beaucoup Anissa Dadi, voilà qui nous réjouit. Merci à vous. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. L'actualité ce matin marquée par la mort d'Ivan Colonna, on l'a appris dans la soirée. Le militant indépendantiste était dans le coma depuis son agression en prison il y a 3 semaines. L'assassin du préfet Irignac a succombé à ses blessures. La Chine face à une flambée inédite de l'épidémie de Covid, conséquence en partie d'une stratégie vaccinale bancale. Seuls les sérums chinois sont autorisés. Les expatriés français réclament, eux, du Pfizer ou du Moderna. Nous serons sur place avec notre correspondant. Et puis, il devrait y avoir de la place pour tout le monde. 13 millions de billets vont être mis en vente pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Premier arrivé ne sera pas synonyme de premier servi. Explication à suivre.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et comme chaque matin, le premier journal de cette matinale vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous.
Certains l'auront reconnu, l'hymne
corse chantée par une poignée de personnes réunies hier devant l'église Saint-Jean-Baptiste de Bastia en hommage à Ivan Colonna dont on a appris le décès dans la soirée. Le militant indépendantiste condamné à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac en 1998 à Ajaccio a succombé à ses blessures, William Molinier, 3 semaines après son agression à la prison d'Arles.
Oui, sa famille l'a confirmé hier soir à travers son avocat. Ivan Colonna est mort à 61 ans à l'hôpital Nord de Marseille où il était sous respirateur dans le coma depuis une agression survenue il y a 3 semaines à la prison d'Arles. Agression ultra-violente dans la salle de sport de la part d'un codétenu radicalisé incarcéré pour terrorisme islamiste. L'enquête avait été reprise en main par le parquet national antiterroriste. Ses avocats avaient obtenu la semaine dernière une suspension de peine comme le prévoit la loi lorsqu'un détenu a un pronostic vital engagé. Selon nos informations, une compagnie de CRS qui est en poste en Corse a été rappelée sur Bastia hier soir. C'est d'ailleurs une des craintes des autorités que le décès d'Ivan Colonna ne vienne à nouveau relancer des heurts dans la préfecture de Haute-Corse. Alors que Gérald Darmanin s'y est rendu la semaine dernière, ce qui a semblé ramener le calme sur l'île, là où il y a 10 jours, 70 policiers et gendarmes avaient été blessés en une seule journée. Depuis le 2 mars, date du début des manifestations, au moins 112 forces de l'ordre ont été blessées selon un bilan de la place Beauvau.
Merci William Molinier. Nombreuses réactions politiques également. La candidate Les Républicains à la présidentielle, Valérie Pécresse, appelle à ne pas embraser la Corse et estime qu'Emmanuel Macron a joué la montre dans ce dossier. De son côté, le député La France Insoumise, Éric Coquerel, dit que si Ivan Colonna avait, comme demandé avec d'autres députés, bénéficié d'un rapprochement, jamais cette tragédie ne serait arrivée.
Qu'a-t-il bien pu se passer dans le si paisible quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris ce week-end pour que l'ex-international de rugby, Federico Martín Aramburu, soit assassiné en pleine rue?
On sait déjà qu'une altercation a éclaté au petit matin à la sortie d'un bar de nuit, mais seule une des 3 personnes suspectées a été placée en garde à vue. Elle pourrait être mise en examen aujourd'hui. Il s'agit d'une jeune femme de 24 ans, soupçonnée d'être une proche du principal suspect. Gladys Lafitte, cet homme est un militant d'extrême droite. Que sait-on de plus sur lui?
Eh bien, à 27 ans, le jeune homme est déjà bien connu de la police et de la justice puisqu'il a été condamné 4 fois, principalement pour violence. Il doit d'ailleurs être jugé en juin avec 4 autres ex-membres du GUD, un groupuscule d'extrême droite dissous. Il s'agit d'une affaire de règlement de compte entre militants en 2015. L'un d'eux a été tabassé, humilié de manière extrêmement violente par ses ex-camarades, dont l'homme actuellement recherché. À l'époque, il avait filmé la scène, porté des coups. Dans l'une des vidéos, on l'entendait d'ailleurs se vanter d'avoir buté plus d'un mec. C'est un ancien militaire, il a servi à Djibouti dans la marine avant d'être rapatrié il y a 7 ans après l'apparition d'une pathologie post-traumatique. Il est décrit comme hyper violent par un connaisseur de la procédure, procédure dans laquelle le jeune homme a été libéré sous caution et placé sous contrôle judiciaire. Il avait depuis l'interdiction de paraître en Île-de-France.
Merci Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1. Les 2 autres suspects dans cette affaire sont en cavale.
La guerre en Ukraine entre dans sa 27e journée.
Et notamment avec cette manifestation de civils hier dans les rues de Kherson, au sud du pays, occupée par les troupes russes, rassemblement dispersé par des tirs d'armes automatiques, de grenades assourdissantes et gaz lacrymogènes qui ont fait au moins un blessé. À noter aussi que la capitale, Kiev, est sous couvre-feu jusqu'à 6h ce matin, heure française.
On en parlait hier dans cette matinale, le conflit a un fort impact sur l'agriculture en Europe. Les ministres des 27 ont adopté hier en conséquence une batterie de mesures d'urgence qui seront soumises au vote de la Commission demain.
Oui, et 2 mesures principales. Pouvoir piocher dans la réserve de crise de 450 millions d'euros pour aider les agriculteurs en cas d'instabilité de prix et l'autorisation de cultiver sur des terres qui devaient être mises en jachère, ce qui représente 4 millions d'hectares de production supplémentaire. C'est bien, mais pas assez, juge Christiane Lambert, présidente de la FNSEA.
C'est une décision qui est prise pour l'année 2022. Nous pensons, nous, qu'il faut revoir un certain nombre d'objectifs que s'était fixé la Commission et qui se traduisaient par une diminution de la production en Europe. Moins de production, ça nécessiterait plus d'importation. Je crois que ce serait un mauvais choix. La possibilité aujourd'hui donnée de cultiver les jachères va compenser partiellement, mais que partiellement, ce que nous allons manquer comme production pour l'alimentation. Certains pays sont très dépendants du blé russe et ukrainien, c'est le cas du pourtour méditerranéen. Donc il faut que l'Europe remplisse pleinement sa fonction nourricière et produise plus pour essayer d'éviter les famines que l'ONU annonce malheureusement.
Des propos recueillis par Maud Descamps pour Europe 1.
L'épidémie de Covid et au moment où le monde entier lève ses restrictions, la Chine, elle, reconfine.
Oui, puisque le pays fait face à une flambée des cas du jamais vu depuis l'apparition du virus, selon les autorités locales. Et sur place, les ressortissants français ne réclament qu'une chose, des vaccins à ARN messager type Pfizer et Moderna, indisponibles puisque seuls les sérums chinois y sont autorisés. La correspondance à Pékin de Sébastien Lebelzik.
La Chine connaît sa vague épidémique la plus spectaculaire depuis 2 ans. L'une des raisons de cette flambée du variant Omicron, c'est la faible efficacité des 2 seuls vaccins autorisés dans le pays, ceux de Sinovac et de Sinopharm. Raison pour laquelle des représentants des 12 000 Français de Chine appellent à l'aide le gouvernement. Franck Pageot est conseiller des Français de l'étranger à Pékin.
La situation sanitaire est très préoccupante en Chine aujourd'hui. Je lance donc un appel au gouvernement français pour qu'il nous livre des vaccins ARN qui ne sont toujours pas disponibles en Chine. C'est pour nous le seul moyen d'être convenablement protégés et nous sortir de l'isolement que certains ont le sentiment de subir depuis plus de 2 ans du fait de la crise sanitaire.
Certaines ambassades européennes, comme celle d'Espagne, ont acheminé des vaccins ARN messagers, en l'occurrence du Moderna, pour vacciner leurs diplomates et une large partie de leurs ressortissants. Mais la Chine n'autorise pas ces vaccins sur son territoire et l'ambassade de France est donc réticente à organiser une large campagne de vaccination pour ses expatriés. À Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
On termine ce journal avec les sports et à 2 ans maintenant des Jeux Olympiques de Paris, levée de rideau sur ce qui attend le public.
Pas moins de 13 millions de places mises en vente. La billetterie des Jeux Paralympique sera lancée dans 1 an et demi. Mais pour celle des JO, ce sera avant. Et ceux qui souhaitent assister aux épreuves devront participer à un tirage au sort, Axel May.
Oui, pour éviter les embouteillages sur la future plateforme internet de vente, un système de tirage au sort sera mis sur pied, explique Mickaël Aloisio, directeur de cabinet de Paris 2024.
Et qu'en fait, on va tirer au sort les créneaux d'achat. Avec les gens qui vont être tirés au sort, on va leur garantir un créneau d'achat de plusieurs heures. Donc, si je suis tiré au sort, le premier tiré au sort, là j'aurai le premier créneau d'achat et je pourrai acheter tout ce qui est dispo en boutique. Si je suis le deuxième, je pourrai acheter tout ce qui est dispo, moins ce que le premier a acheté, et ainsi de suite.
Le calendrier est le suivant. Dès la fin de cette année, inscription au tirage au sort pour des billets vendus en pack. Les gagnants du tirage seront avertis par mail et disposeront donc d'un créneau de plusieurs heures en février 2023 pour acheter les packs encore disponibles qui les intéressent. Un second tirage au sort aura lieu pour la billetterie à l'unité. Là, ce sera au printemps 2023. Et fin 2023, les dernières places pour les JO seront mises en vente. 10% des tickets, soit 1 million, seront proposés au prix attractif de 24 euros.
Et 24 euros pour Paris 2024. Merci Axel May du service des sports d'Europe 1.
J'avais pas fait le rapprochement, merci. Alban Le Prince pour ces informations.
5h09 sur Europe 1, c'est l'heure des courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Chantilly et mon pari gagnant sera le 203 Chachnac. Ayant eu d'autres ambitions puisqu'il a été jugé digne de courir il y a 2 ans le prix de l'Arc de Triomphe, il a ensuite été absent pendant plus d'un an en raison de problèmes de santé désormais résolus. Déjà titulaire de 2 victoires cette année en seulement 3 tentatives, il continue à rattraper le temps perdu et fait face cet après-midi à un très bel engagement qu'il ne devrait pas laisser échapper. Notez bien, pour Chantilly, réunion 1 dans la deuxième course, le numéro 3, Chachnac.
Chachnac, le numéro 3, c'est noté. Merci beaucoup Thierry Léger. On vous retrouve dans une demi-heure maintenant pour les pronostics du Quintet. À tout de suite.
Et Julien Pierce sur Europe 1.
Bon réveil, bienvenue. Si vous arrivez juste, c'est votre petit matin et c'est maintenant le pressing avec nous. Martin Lange, bonjour.
Bonjour Ambline, bonjour Julien, bonjour à tous.
Les unes de vos journaux mettent à l'honneur ce matin un couple. Aujourd'hui en France, a interrogé Olena Zelenska. Nos enfants n'oublieront jamais ce que vous faites pour nous, affirme l'épouse du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui lui fait la une de Libération. L'irréductible, titre le quotidien, et qui tire le portrait de ce trublion de la télévision métamorphosé depuis quelques semaines en chef de guerre. La guerre qui, elle, continue ses ravages. La Russie intensifie ses frappes contre les civils, peut-on lire en première page du Figaro, avec en photo les restes fumants du centre commercial bombardé hier à Kiev. C'est absolument impressionnant. Voilà pour les unes les plus marquantes. Omblin, on commence avec vous. Quel article avez-vous sélectionné ce matin?
Alors c'est aujourd'hui que nous connaîtrons les nouveaux étoilés du Michelin et à cette occasion, l'édition du soir de Ouest France nous emmène dans le sillage des enquêteurs gastronomiques.
Le menu, please. Thank you. J'écoute. Salade of tomatoes et entrecôte bordelaise. avec du Coca-Cola.
Oh, non. Oui. Beaujolais nouveau.
Beaujolais nouveau. Louis de Funès déguisé en américain avec un accent un peu douteux. Dans L'aile ou la cuisse, il est le directeur d'un guide gastronomique qui visite des restaurants incognito et tous craignent ses critiques culinaires. Voilà un joli coup de projecteur de Claude Zidi sur le métier d'enquêteur gastronomique. On doit la création de cette profession au frère Michelin qui, 33 ans après l'invention du guide rouge en 1900, les frères ont fait appel à des amateurs de grande cuisine. Finalement, on sait peu de chose hein, sur ces enquêteurs. Qui sont-ils? Combien sont-ils? C'est secret défense. Alors on les imagine en impair, hein, inspecteur austère, lunettes sur le bout du nez, comme le personnage dans Ton Ego, dans le Pixar Ratatouille, le pire cauchemar des chefs français dotés d'un immense pouvoir. Oui, car il peut garantir le succès total d'un établissement ou au contraire lui faire perdre des clients. Arrêtons le fantasme, le critique au Palais Délicat est un client comme les autres, des femmes, des hommes qui mangent sans se faire connaître et paient leur repas comme tout le monde. La note leur sera remboursée par leur employeur. La différence entre le Michelin et le Goemio, je ne sais pas si vous le savez, c'est que chez les seconds, les critiques ne sont pas des enfants du sérail, ne sont pas des professionnels salariés. Ils occupent un emploi à côté. Chez Goemio, en fait, on peut être critique en étant étudiant aussi ou retraité. D'accord. Voilà. Autre différence notable, le critique de chez Goemio doit ensuite sortir sa plus belle plume, tandis que chez Michelin, les rédacteurs professionnels rédigent les commentaires à partir d'un rapport d'enquête. Voilà. 300 repas par an, quand même, hein, tout seul. Et concentré sur son assiette, on peut pas écrire forcément, c'est trop voyant. Des milliers de kilomètres parcourus, ça c'est le quotidien des enquêteurs culinaires.
300 repas par an.
300 repas par an.
C'est quasiment un par jour.
Et bah oui, c'est un métier à part entière. Et puis seul, hein. Enfin voilà, c'est pas non plus un moment.
Faut tenir la ligne. Hein.
Voilà.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et le plus dur en plus de la ligne, c'est de maîtriser la notation avec la même rigueur que ce soit pour un palace ou un petit bistrot. Profession enquêteur gastronomique, c'est sur le site de West France.
Ben, ça donne envie. Hein.
Ouais, c'est un... Alors,
pas.
Vous pouvez postuler chez Goemio si
non,
vous voulez.
Non, je suis déjà trop gros. merci beaucoup, Blin Martin, c'est à vous.
On parle beaucoup en ce moment des sanctions qui frappent les oligarques russes. Ces avoirs gelés, ces villas saisies. Il y a même un club de foot, Chelsea. Je vous en parlais il y a quelques jours, dont on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Mais certains oligarques, qui ne sont pourtant pas touchés par les sanctions, hein, ont eux aussi, du souci à se faire. Je vous présente ce matin Vladimir Strashkovski. Alors, je suis pas tout à fait certain de la prononciation. C'est un ancien agent du KGB comme Poutine. Il a dirigé le groupe minier Norilsk Nickel pendant une quinzaine d'années. Il est parti avec un très très gros chèque, près de 100 millions de dollars. Et avec ça, il s'est offert un yacht, le Ragnar, 68 mètres de long, un véritable palace flottant avec spa, salle de gym, héliport et même des motoneiges. Hein, drôle d'idée sur un bateau. Mais son problème aujourd'hui, hein, c'est que le Ragnar est bloqué en Norvège. Ce n'est pas une mesure de rétorsion. Hein. Personne n'a saisi le navire. Non, Strashkovski n'est sur aucune liste de sanctions édictées par les Occidentaux, malgré ses liens évidents avec le Kremlin. Si le Ragnar est coincé avec ses 16 membres d'équipage, c'est qu'aucun ravitailleur ne veut lui vendre du carburant. Pourquoi est-ce que je les aiderais? Demande Sven Holmun à la tête d'une entreprise qui distribue de l'essence. Ils n'ont qu'à ramer ou hisser les voiles pour rentrer chez eux. En fait, hein, c'est tous les habitants du petit port de Narvik, en Norvège, donc, hein, qui ont décidé que le méga yacht n'était pas le bienvenu chez eux. Ils en appellent même au gouvernement norvégien, hein, saisissez le navire, ce qui semble être illégal vu que son propriétaire n'est visé par aucune sanction.
Alors, le problème dans cette affaire, Martin, et vous les avez donné, hein, les 16 victimes collatérales, les 16 membres d'équipage.
Oui, exactement, les membres d'équipage. Hein, d'ailleurs, aucun n'est russe. Le capitaine, hein, Rob Lancaster, lui, est britannique, hein, c'est un ancien de la marine, et il dénonce une discrimination. Lui aussi en appelle au gouvernement norvégien pour mettre fin à cette injustice, dit-il. C'est vrai que même le navire ne bat pas pavillon russe, mais maltais, et qu'il est souvent loué, en fait. L'oligarque n'est jamais à bord. Mmh. Alors, tout ça probablement pour des raisons fiscales, mais personne ne les écoute, hein, déplore le capitaine. On veut simplement rentrer chez nous. Ce yacht d'un oligarque russe auquel personne ne veut faire le plein, c'est une trouvaille du Guardian et c'est à lire dans le Courrier international.
Merci à vous, Martin. J'ai choisi pour ma part un article du Figaro qui nous parle politique, non pas de l'élection présidentielle dont le premier tour n'est que dans 19 jours, mais des législatives qui, elles, doivent avoir lieu beaucoup plus tard, les 12 et 19 juin prochains, et c'est bien ce qui inquiète la majorité. Car voyez-vous, dans les rangs de la Macronie, l'issue de la présidentielle ne fait tellement aucun doute qu'on est passé à autre chose. On prépare déjà le second quinquennat et ça passe par des législatives réussi, autrement dit l'élection d'une majorité de députés acquis à la cause élyséenne, préalable indispensable. Si le chef de l'État veut avoir les coudées franches, il lui faut ces quelques 300 élus qui adopteront sans ciller les textes qu'on leur demandera de voter, bref, des représentants du peuple zélé. Jusque-là, pas de surprise, c'est le même scénario tous les 5 ans, à la différence que cette fois, les législatives doivent avoir lieu 7 semaines après le second tour, soit 2 de plus que lors des précédentes périodes électorales. C'est la conséquence du calendrier des présidentielles retenu par le gouvernement, calendrier qui a été avancé au maximum dans le respect toutefois des règles imposées par la Constitution. Et c'est bien ce qui se chagrine à présent certains stratèges de La République En Marche. Ils trouvent que ces 7 semaines de battement entre le futur second sacre de leur champion et les législatives, c'est long, trop long. Il ne faudrait surtout pas laisser retomber le soufflet d'une victoire qui s'annonce éclatante et donner du temps par la même occasion aux oppositions de se refaire une santé. D'où cette petite musique qui monte ces dernières semaines dans les rangs de la Macronie. Pourquoi ne pas dissoudre l'Assemblée nationale au lendemain du second tour de la présidentielle ? Cette option, pour le moins radical, est bel et bien sur la table, même si, questionné la semaine dernière à ce sujet, Emmanuel Macron a assuré qu'il n'en était pas question à cette heure. J'ai trop de respect pour les rendez-vous démocratiques pour les bousculer. La piste n'en est pas moins très sérieusement étudiée au sommet de l'État, comme le prouve une note fournie au ministère par des conseillers gouvernementaux. On y apprend qu'en vertu de l'article 12 de la Constitution, les législatives doivent se tenir entre 20 et 40 jours après une dissolution. Résultat, si le président élu annonce sa décision dès le 25 avril, au lendemain donc du second tour de la présidentielle, il avancerait le scrutin au 15 et 22 mai, si l'on prend l'option la plus pressée, soit un mois plus tôt que le calendrier prévu pour l'heure, beaucoup plus acceptable pour les spin-doctors de l'Élysée. Autre avantage, cette opération prendrait aussi de court les alliés de La République En Marche, tentés de monnayer chèrement leur soutien pour une deuxième mandature. Le délai d'organisation et de négociation serait tellement faible qu'Édouard Philippe, François Bayrou et les nouveaux venus de LR ne pourront pas faire leur cirque, prédit un témoin des discussions dans la majorité. Mais tous, dans cette même majorité, ne partagent pas cet enthousiasme teinté de cynisme. Une hérésie, voilà comment certains réagissent à l'évocation de ce scénario consistant à faire d'une arme constitutionnelle de dernier recours un simple outil d'ajustement du calendrier électoral. On risque de passer pour des bidouilleurs, s'inquiète un conseiller de l'exécutif. Analyse partagée par une élue de l'opposition qui rappelle cette évidence, oubliée par certains. La Constitution est faite pour le peuple et non pour servir les intérêt d'un seul homme. Dissoudre l'Assemblée, une option périlleuse pour Macron, c'est-à-dire ce matin dans le Figaro.
Une décision qui serait sans doute impopulaire d'ailleurs, avec un risque de vote sanction derrière.
Le débat est ouvert.
Voilà, le débat est ouvert. Bon, merci beaucoup Julien, merci Martin, on se retrouve dans 40 minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
5h20 sur Europe 1, les principaux titres, Alban Le Prince.
Le décès d'Ivan Colonna, le militant indépendantiste corse condamné pour l'assassinat du préfet Erignac, a succombé à ses blessures hier, 3 semaines après sa violente agression à la prison d'Arles par un co-détenu. En Ukraine, Moscou assure avoir ciblé une cache d'armes après le bombardement d'un centre commercial à Kiev hier matin qui a fait au moins 8 morts. Dans la capitale ukrainienne, un couvre-feu est mis en place jusqu'à 6h ce matin, heure française. L'une des conséquences chez nous en France de la guerre, c'est la flambée des prix de l'énergie, des carburants. Avec une journée d'action hier, des pêcheurs, agriculteurs, transporteurs ou encore taxis, bref, toutes les professions directement touchées par les hausses des prix.
Vous êtes élu entrepreneur ou à la tête d'une association et vous œuvrez au quotidien pour faire bouger les lignes. Vous avez la parole sur Europe 1 le matin. Ce sont les initiatives en France.
Bonjour Dan Ler.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président d'Eau de Paris et votre mission, c'est de vous assurer au quotidien que de l'eau potable coule dès qu'un robinet s'ouvre dans la capitale. Et si on vous appelle ce matin, c'est parce que vous mettez en place un réseau de 500 commerces parisiens dans lesquels il sera possible prochainement de remplir gratuitement sa gourde. C'est bien ça ?
Oui, je suis très content d'annoncer le lancement du réseau Ici, je choisis l'Eau de Paris. C'est le premier réseau de France qui va rassembler plus de 500 commerces et lieux qui effectivement vont proposer gratuitement de l'eau du robinet aux Parisiens pour remplir leurs gourdes.
L'idée derrière cette initiative, c'est de limiter notre consommation parfois abyssale de bouteilles en plastique.
Oui, parce que boire l'eau du robinet, c'est le premier geste écologique en faveur de la protection de l'environnement. Je vous rappelle que 95% des déchets présents dans les océans sont des déchets plastiques. C'est une pollution environnementale majeure. Et avec ce réseau, on franchit une nouvelle étape pour sortir du plastique à usage unique.
Alors on comprend bien qu'avoir une gourde sur soi doit devenir un réflexe, ça fait plusieurs années qu'on le répète. Maintenant, il n'est pas toujours simple de pouvoir la remplir. Alors, il existe des fontaines à Paris, hein, des fontaines d'eau potable, mais elles ne sont pas suffisamment utilisées à vos yeux ?
Grâce à ce réseau, nous souhaitons faciliter l'accès à l'eau, en plus des 1200 fontaines d'eau qui sont déjà présentes à Paris. Et ces fontaines sont utilisées hein, partout à Paris, dans les rues, dans les parcs, dans les jardins. Mais nous allons multiplier les points d'accès à l'eau et faire de la gourde le réflexe du quotidien des Parisiens. Parce que rien, finalement, ne justifie à Paris de boire de l'eau en bouteille. L'eau du robinet, l'eau qui arrive par les fontaines, est de qualité équivalente à l'eau en bouteille.
Comment vous est venue cette idée d'associer les commerces ?
Alors, on s'est rendu compte que finalement, le sujet, c'était l'accès à l'eau, de faciliter l'accès à l'eau, donc en plus de notre réseau de fontaines. Donc, on a souhaité avoir un partenariat avec les commerçants qui sont volontaires pour multiplier les points d'eau de recharge gratuite des gourdes pour les Parisiens. Et c'est comme ça qu'on a monté ce réseau, très rapidement d'ailleurs, parce que les commerçants sont très réceptifs à Paris à cette question environnementale.
Et puis, il y a le précédent de la ville de Londres qui, je crois, a mis en place le même système il y a de cela quelques années ?
Oui, c'est ça. Londres a mis en place ce qu'ils appellent le programme Refill London, qui est un peu sur le même modèle. Et on s'est aperçu que plus d'un Parisien sur deux achète régulièrement de l'eau en bouteille et plus de 3 touristes sur 4, ce qui représente à Paris une source de pollution de plusieurs millions de bouteilles par an. Donc, on s'est dit qu'il fallait aller encore plus loin pour éliminer finalement la bouteille d'eau en plastique. Parce que rien vraiment ne justifie de boire de l'eau en bouteille à Paris. Et donc, avec ce réseau, on a proposé des solutions pour trouver des alternatives aux bouteilles en plastique. Et grâce aux expérimentations que nous avons déjà menées depuis ces 2 dernières années, nous avons pu économiser 800 000 bouteilles d'eau en plastique à Paris.
Comment est-ce qu'on pourra trouver et identifier ces commerces où l'on pourra remplir sa gourde ?
Alors, sur la devanture de ces commerces, vous retrouverez un sticker « Ici, je choisis l'eau de Paris » qui vous indiquera que ce commerçant est partenaire de cette opération, de ce réseau, et vous pourrez
rentrer... C'est un sticker bleu, je précise pour nos auditeurs qui seraient intéressés.
Un sticker bleu, oui, tout à fait, un sticker bleu, et qui indiquera aux Parisiens, aux touristes, aux personnes qui travaillent à Paris, qu'ils peuvent entrer dans ce commerce et recharger leur gourde. Notre objectif, c'est de développer ce réseau très largement. Et d'ailleurs, j'invite tous les commerçants parisiens à se mobiliser avec Eau de Paris pour faciliter l'accès à l'eau pour tous les Parisiens, les travailleurs et les touristes.
Alors, vous associez les commerces à cette démarche, mais aussi des événements qui drainent énormément de public, comme le festival Wheel of Green, où l'on pourra, c'est ce que j'ai lu en juin, louer une gourde le temps des concerts, c'est ça ?
Oui, c'est ça, on pourra louer une gourde pour pas multiplier non plus les gourdes, pour en faire vraiment un contenant réutilisable. Et donc, on aura une consigne de gourdes, finalement, dans ces festivals qui sont déjà très engagés sur la transition écologique.
Et puis, il y a les grandes écoles, les hôpitaux ou encore les gares qui commencent à s'y mettre.
Voilà, donc notre groupe de travail qui rassemble 30 partenaires publics et privés. On a fait beaucoup d'expérimentations, notamment avec Sciences Po, avec des musées aussi. On a beaucoup de projets pour les musées, pour qu'on ait plus de fontaines à eau dans ces lieux qui accueillent du public et qu'on puisse avoir une alternative finalement à la bouteille d'eau en plastique. Et nous espérons progressivement éliminer beaucoup de bouteilles d'eau en plastique à Paris.
Il y a d'autres freins aujourd'hui à la consommation de l'eau du robinet, on va dire des idées tenaces contre lesquelles vous luttez ?
Ce que je voudrais dire simplement sur l'eau du robinet, c'est que c'est une eau qui vient de sources naturelles et c'est une eau qui est de qualité équivalente à l'eau qui est en bouteille, les bouteilles d'eau en plastique. L'eau de Paris est d'excellente qualité et je pense que tous les Parisiens le savent et le reconnaissent puisqu'ils sont 8 Parisiens sur 10 au domicile à boire de l'eau du robinet, donc ils savent qu'elle est d'excellente qualité.
Cette carte que vous publiez, carte sur laquelle on peut trouver localiser en tout cas les commerces partenaires, on peut la trouver où cette carte ?
Alors vous pourrez retrouver la carte sur le site d'Eau de Paris, eauxdeparis.fr, avec l'ensemble des localisations. Et puis progressivement sur le site paris.fr, vous aurez aussi les 1200 fontaines dans l'espace public, plus les commerçants qui sont partenaires de ce réseau « Ici, je choisis l'Eau de Paris ».
Merci beaucoup Dan Lehr, président d'Eau de Paris, d'avoir répondu à nos questions ce mardi matin, journée mondiale de l'eau, je le précise. Je vous souhaite une excellente journée.
Je vous remercie.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h28 sur Europe 1, bon réveil. Nous sommes le mardi 22 mars, à suivre le journal de Christophe Lamarre. Et puis nous retrouvons ensuite, comme tous les mardis, notre spécialiste littérature, Nicolas Caro.
Nicolas qui a choisi un roman doux et délicat, La patience des traces, de Jeanne Bonhammer, l'histoire d'un psychanalyste qui va tout quitter pour se reconstruire. Votre prescription littérature à 6h10.
Et puis nous connaîtrons aujourd'hui les nouveaux étoilés du Michelin.
C'est l'un des moments les plus attendus, plus importants dans le monde de la haute gastronomie. Pour la première fois, la cérémonie n'aura pas lieu à Paris. Le célèbre guide rouge a choisi la ville de Cognac en Charente pour dévoiler cet après-midi son palmarès 2022. Alors en attendant ce moment, eh bien nous serons avec celle qui a reçu sa première étoile l'an dernier, la chef du restaurant Signature à Marseille, Colline Folquier. Qu'est-ce que cette étoile a changé dans sa vie, dans sa cuisine? On en parle avec elle dans un quart d'heure.
Anissa Haddadi pour la météo.
Le printemps est bel et bien là. Il y a Christophe Lamarre qui est en train de changer la courroie de distribution du studio, on a l'impression.
Le petit branchement informatique qui...
C'est ça.
Voilà. Bon, oui. La météo. Vous êtes là pour la météo, en fait ?
Oui, je suis là pour la météo, évidemment. Et pour vous annoncer des bonnes nouvelles. Parce
que le printemps est là.
C'est ça. Le printemps est là. Il est bel et bien là, avec du grand et beau soleil pour presque tout le monde. Et dès ce matin, hein, c'est vrai que dès le lever du jour, vous verrez, le soleil va briller sur quasiment toutes les régions. Il y a quelques petites exceptions. Sur le Languedoc-Roussillon, on a quelques nuages, mais on n'a plus d'averses comme hier. Les nuages sur le Languedoc et le Golfe du Lion vont se dissiper cet après-midi. Et puis en deuxième partie de journée, c'est sur le Cotentin, le Morbihan, sur le Pays Basque. Là, on a quelques petits nuages qui traînent avec quelques gouttes possibles du côté du Pays Basque, mais c'est vraiment très anecdotique. Alors, côté température, attention, ne vous faites pas piéger, j'annonce du grand et beau soleil, mais ce matin, il faut quand même garder le petit tour de cou, la petite veste, parce qu'on est quand même que fin mars. On a moins 3 degrés à Sisteron, moins 1 à Montluçon, 0 à Ajaccio, 4 à Besançon, 7 à Paris et 10 à Boulogne-sur-Mer. Cet après-midi, la douceur est là. Vous mangerez en terrasse à Bastia et à Quimper avec 14 degrés, 15 à Lorient et Annecy, 18 à Paris et 19 à Lens.
C'est noté, merci beaucoup Anissa Haddadi et à tout à l'heure. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, il est 5h30.
Europe 1.
Et à la une de ce mardi, la mort d'Ivan Colonna, le militant nationaliste condamné à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac et décédé hier soir des suites de son agression en prison il y a 3 semaines. La guerre en Ukraine, le président Zelensky renouvelle sa demande d'une rencontre avec Vladimir Poutine. Seul moyen d'arrêter cette guerre, prévient le président ukrainien. Sur le terrain, les bombardements continuent. À Mariupol, totalement assiégé et en grande partie détruite, l'Union européenne dénonce un crime de guerre majeur. Et puis la journée mondiale de l'eau, c'est aujourd'hui ressource rare pour certains pays et source de conflits. Un bien précieux pourtant gâché par les fuites. 50% de l'eau potable se perd dans la nature, la faute à des canalisations hors d'usage.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Ivan Colonna est mort. Le militant indépendantiste corse est décédé hier soir après 3 semaines de coma. Épilogue de l'agression dont il a été victime en prison par un co-détenu présenté comme radicalisé. Ivan Colonna, condamné à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac, était devenu l'une des figures du mouvement pour l'indépendance de la Corse. Sa longue cavale qui avait précédé son interpellation en avait fait l'homme le plus recherché de France. Gladys Lafitte.
En 1999, Ivan Colonna devient l'homme le plus recherché de France. Celui que la presse surnomme le berger de Cargès a pris le maquis, malgré l'appel à se rendre de son père, Jean-Hugues Colonna, ancien député socialiste des Alpes-Maritimes.
Pour ton fils, pour toi-même, pour ta défense, je te recommande de te mettre à la disposition de la justice.
Quelques mois plus tôt, en février 1998, le préfet de Corse, Claude Erignac, est assassiné de 3 balles dans la nuque. Ivan Colonna est accusé d'avoir fait partie du commando assassin. L'attentat est alors revendiqué par un groupe nationaliste corse. L'affaire secoue le pays. Jacques Chirac est alors président de la République.
L'assassinat du représentant de l'État en Corse est un acte barbare, d'une extrême gravité et sans précédent dans notre histoire.
La traque dure 4 ans. Entre-temps, Nicolas Sarkozy devient chef de l'État et c'est lui-même qui annonce en juillet 2003 l'arrestation d'Ivan Colonna.
La police française vient d'arrêter Ivan Colonna, l'assassin du préfet.
Ivan Colonna, lui, clame son innocence et l'a toujours fait. Il n'a jamais caché son engagement nationaliste, mais se décrit comme un simple militant politique. Il dit aussi qu'il n'a jamais tué personne et il le répétera durant ses 3 procès qui l'ont à chaque fois condamné à la prison à vie, une peine purgée sur le continent et non en Corse, malgré ses demandes de rapprochement et les démarches de sa femme. Elle interpelle même le président Macron en 2018.
Mon fils n'a pas vu son père depuis 1 an et demi. Viens, s'il vous plaît, monsieur le président, faites quelque chose.
Incarcéré depuis 19 ans, la détention d'Ivan Colonna était devenue un sujet éminemment politique. Encore en janvier dernier, des parlementaires lui avaient rendu visite à Arles et plaidé sa cause.
Gladys Laffitte.
Et la mort d'Ivan Colonna fait craindre une nouvelle flambée de violence sur l'île de Beauté.
Plusieurs dizaines de personnes se sont spontanément rassemblées à l'annonce de sa disparition à Bastia devant le palais de justice et à Ajaccio. Manifestation silencieuse devant la cathédrale. Aucun incident signalé pour l'instant. L'annonce de son agression il y a 3 semaines avait provoqué de violents affrontements entre manifestants corses et policiers. Le ministre de l'Intérieur s'était déplacé en personne pour ramener le calme avec la promesse de discuter de l'autonomie de la Corse.
Pas de commentaires du côté de la famille d'Ivan Colonna qui demande à ce que l'on respecte le deuil, mais déjà en revanche des réactions politiques.
L'heure est au recueillement, dit l'avocat d'Ivan Colonna, mais les responsabilités devront être assumées par les intéressés. La candidate à la présidentielle, Les Républicains, Valérie Pécresse, parle d'un drame et appelle les Corses au calme et à la retenue. Pour l'insoumis Hugo Bernalicis, le décès d'Ivan Colonna est une tragédie et signe l'échec de notre justice et du gouvernement.
5h passées de 34 minutes sur Europe 1. L'autre actualité de ce mardi matin, c'est encore et toujours la guerre en Ukraine.
Le président Zelensky renouvelle sa demande d'une rencontre avec Vladimir Poutine sous quelque forme que ce soit. Le président ukrainien répète que son pays n'acceptera aucun ultimatum de la part de la Russie, mais un compromis est possible sur le Donbass et la Crimée.
Sur le terrain, les bombardements se poursuivent.
À Mariupol, les bombardements effectivement continuent de pleuvoir sur la ville. La cité côtière, totalement encerclée par les forces russes, est presque entièrement dévastée. L'Union européenne dénonce un crime de guerre majeur. Bombardement également à Kiev, où un nouveau couvre-feu est en vigueur jusque demain matin, 7h.
Ce sont désormais près de 3,5 millions de personnes qui ont quitté l'Ukraine, qui ont fui l'Ukraine. La solidarité continue de s'organiser.
La France va acheminer 55 tonnes d'aide humanitaire, notamment du matériel médical et informatique. Elle accueille aussi depuis hier 20 enfants ukrainiens malades, atteints de cancer ou de leucémie, pour être soignés. Nos enfants n'oublieront pas ce que vous faites pour nous, dit ce matin dans Aujourd'hui le Parisien Olena Zelensky, l'épouse du président Zelensky. Les manifestations de solidarité qui s'expriment aussi via des concerts caritatifs comme celui donné hier soir au théâtre de l'Odéon à Paris. Reportage Thibaut Hu.
Debout, instruments à la main, les musiciennes tournent le dos à un écran géant. Kharkiv, Kherson, Mariupol, des images de villes ukrainiennes détruites défilent en arrière-plan. Avec le groupe Ghana, la guitariste a fui son pays pour rester sur scène.
Les murs de nos immeubles à Kiev tremblaient à cause des bombes. On devait partir. On va se battre ici et montrer que l'Ukraine a toujours l'esprit libre.
Le visage maquillé d'une poudre blanche, les dards d'auteurs chantent leur tristesse, leur colère contre l'invasion russe. C'est comme cela que Solomia, l'une des interprètes, veut agir.
Nous sommes des femmes, donc on ne pouvait pas aller combattre en Ukraine. Notre arme à nous, c'est l'art, la musique. Nous sommes au front artistique.
Dans la salle, beaucoup de spectateurs sont ukrainiens, comme Alexandra, qui sèche ses larmes.
Il faut que ça passe aux actions aussi. On ne peut pas juste regarder comment nos villes soient massacrées.
Et des Français, aussi très émus.
C'est plus que bouleversant, ils ne peuvent rien faire.
On est aussi confrontés à ce sentiment d'impuissance. C'est terrible ça.
Et après cette date à Paris, les dards d'auteurs partent en tournée en France au mois d'avril et de mai pour continuer à jouer et à se faire entendre.
Un reportage au Théâtre de l'Odéon à Paris, signé Thibaut Hu.
C'est un bien précieux et on a tendance à le gâcher. Ce mardi marque la journée mondiale de l'eau. 50% de l'eau disponible dans le monde se perd à travers les fuites.
Oui, ce sera d'ailleurs le thème de la deuxième journée qui lui est consacrée au forum de Dakar. L'eau source de conflit quand elle se fait rare. La lutte contre les fuites fait partie des solutions. La moitié de l'eau puisée dans le monde n'est jamais redistribuée. La faute à des canalisations poreuses. Ça représente 20% rien qu'en France. Des solutions existent et elles se trouvent du côté de l'intelligence artificielle, Louise Salé.
Sur le plus grand réseau français, le syndicat des eaux d'Île-de-France, des capteurs sur les tuyaux repèrent les fuites. Ils collectent des données sur la façon dont les canalisations s'abîment au cours du temps, explique Delphine Alrivi. Elle est en charge des outils techniques.
Ça permet également d'investir dans le renouvellement des canalisations aux endroits qui sont les plus critiques et donc de remplacer des canalisations qui sont susceptibles de casser de manière rapide sans aller remplacer quelque chose qui est encore en bon état.
La solution utilisée par l'Île-de-France est celle d'Altereo, une jeune entreprise qu'a fondée Christian Laplot. Il est persuadé que l'investissement dans les réparations des canalisations françaises pourrait être bien plus efficace.
On a la déconvenue de voir que chaque année, il y a toujours autant de fuites. On a 1 milliard de mètres cubes de fuites. Donc l'efficacité du renouvellement tel qu'il est fait aujourd'hui est nulle. 2 milliards et demi d'euros qui sont investis la plupart du temps au mauvais endroit. On renouvelle des canalisations qui ont moins de risques de défaillance que celles qui sont ailleurs, qui elles en auraient plus. Donc on n'investit pas l'argent au bon endroit.
Sa société agit également en Afrique où 2 milliards de personnes vivront en 2050. Les villes du continent déplorent aujourd'hui 60% de fuites d'eau potable sur leur réseau.
Louise Salé.
Et c'était le journal de Christophe Lamar. Merci beaucoup Christophe. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien. Direction l'hippodrome de Chantilly pour un Quintet réservé exclusivement à la jante féminine. Et parmi les 16 partantes, il est légitime d'accorder un très large crédit au numéro 8, hilarante, irréprochable, n'ayant jamais terminé plus loin que 5e depuis le début de sa carrière et qui reste sur une prometteuse 5e place dans un Quintet le 24 janvier à Cagnes-sur-Mer pour sa première tentative à ce niveau. On lui opposera les numéros 5, Révolté, une jument estimée et longtemps ménagée à suivre dès sa course de rentrée, 10, Galifa, qui reste sur une facile victoire le 9 mars sur cette piste en sable fibré, et 14, Simaruba, dont la dernière fin de course sur le parcours qui nous intéresse n'est vraiment pas passée inaperçue. Enfin, les numéros 7, Full Flow, 2, Beautiful Aspen, 4, Nottingham et 9, Rose in Bloom peuvent, comme beaucoup d'autres, s'immiscer à l'arrivée de ce Quintet. Mon pronostic, 8, 5, 10, 14, 7, 2, 4 et 9.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci beaucoup Thierry Léger.
Marie-Josée Pérec a appuyé sur l'accélérateur.
Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York.
L'abolition de la peine de mort en France.
Le jour où les grands faits historiques qui racontaient à travers les archives d'Europe 1.
Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous.
Il y a 10 ans, le 22 mars 2012, était abattu Mohamed Merah, le terroriste qui a tué 7 personnes au total, 3 enfants juifs et un père de famille devant une école juive, ainsi que 3 militaires à Toulouse et Montauban. Il meurt finalement, Mohamed Merah, après de longues heures de face à face avec les équipes du RAID.
Oui, 32 heures de négociations avec le RAID. Mohamed Merah s'est retranché dans son appartement dans un quartier pavillonnaire de Toulouse. Les hommes du RAID réussissent à échanger avec lui, soit à travers la porte, soit via le talkie-walkie que la police lui a fourni. Quelques heures avant l'assaut, Christophe Coppen, ancien négociateur du RAID, s'exprime sur Europe 1.
S'il a des réserves avec lui, il est capable de tenir longtemps. Même si là maintenant, il est privé d'eau et de plusieurs moyens de confort, on va dire, particuliers.
Merah a revendiqué cette série d'assassinats dans l'école juive de Toulouse et puis auprès des militaires. On découvre qu'il a séjourné en Afghanistan et qu'il est suivi par les services de renseignement français. Pourquoi l'a-t-on laissé filer ? Demande François Hesbourg, expert international des questions de sécurité et de terrorisme sur Europe 1.
Pour moi, il était clair que notre immunité par rapport aux attentats ne pouvait pas être éternelle. Un jour ou l'autre, un terroriste allait passer à travers les mailles du filet et allait réussir son coup.
On est en 2012 et il n'y avait pas eu d'attentat réussi en France depuis 1996.
À un moment, les choses semblent s'apaiser. Les hommes du RAID pensent que Merah va se rendre.
Oui, il affirme qu'il ne veut pas mourir, qu'il ne se sent pas l'âme d'un martyr. Il jette même une arme par la fenêtre. Mais d'un seul coup, le terroriste de 23 ans adopte à nouveau une posture très fermée et refuse de se rendre. Récit sur Europe 1 du journaliste Pierre de Cossette.
On a donc appris que Merah souhaitait finalement mourir les armes à la main. Et depuis cette nuit, plus aucune nouvelle, malgré donc tous les efforts déployés par le RAID qui a eu des renforts hier dans la soirée.
Les policiers du RAID progressent lentement dans l'immeuble. L'assaut final est lancé à 11h26 ce 22 mars 2012. Le journaliste Stéphane Place raconte.
Là, vraiment, ce sont des tirs en rafale et ce sont sans doute les tirs les plus nourris que l'on ait entendus depuis hier matin, 3h20, au moment où la police s'est présentée au domicile du suspect.
Mohamed Merah était invisible, caché au fond de son appartement. Une caméra le débusque finalement dans la salle de bain, détaille à l'époque Alain Acco, le chef du service police-justice.
C'est un endroit idéal pour ne pas être capté par les caméras thermiques. Il y a une baignoire, on peut se camoufler sous un matelas.
Mohamed Merah sort finalement de chez lui en ouvrant le feu. Il est abattu. Il portait un gilet pare-balles. balle et une djellaba noire. Retrouvé à côté de lui, son arme, un Colt 45, ne contenait plus que 2 balles.
Merci beaucoup Laure d'Autriche et à demain pour un nouveau jour où. Dans un instant sur Europe 1, le retour des étoiles du guide Michelin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Il est 5h44 et c'est un moment très attendu chaque année. Cet après-midi, le guide Michelin va révéler sa sélection de restaurants 2022 et présentera donc les nouveaux étoilés. Et pour la première fois, la cérémonie ne va pas se tenir à Paris, mais en région, à Cognac, en Charente. Et en attendant de connaître le palmarès, nous sommes avec une femme qui l'a reçu l'an dernier, sa première étoile, et qui a aussi été désignée meilleur chef 2021.
Bonjour Colline Folquier.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes chef du restaurant Signature dans le 8e arrondissement de Marseille, restaurant une étoile. Et le Michelin vous a donc doublement consacré l'année dernière. Comment avez-vous vécu ces derniers mois depuis l'obtention de votre première étoile ?
Alors l'étoile c'est un rêve d'enfant, hein, c'est un rêve de gosse. Moi j'ai toujours travaillé chez des chefs étoilés, donc c'était vraiment l'accomplissement de quelque chose. Mais je cache pas le fait que ça met une certaine pression qu'on n'avait pas avant. Et que, en fait, on n'a vraiment plus le droit à l'erreur. Donc, c'est très, 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 très prenant. Mais moi, c'est avec plaisir que je vis cette expérience.
Ça représentait, le guide Michelin, une fin en soi pour vous ?
Non, c'est pas une fin en soi, parce que je pense qu'on peut être heureux dans sa cuisine sans être étoilé. Moi, c'est plus le repère de l'excellence, de toujours se surpasser, de toujours aller plus loin. J'espère que je m'arrêterai pas à une étoile. Alors, je dis ça en pensant que je vais bien faire encore 30 ans dans ce métier. Minimum, j'espère. Mais c'est sûr que... c'est une première marche en fait de grimper, mais au contraire, c'est pas du tout une fin en soi, au contraire.
Vous avez parlé de ne plus avoir le droit à l'erreur. Vous avez la sensation après avoir reçu votre étoile d'être attendu au tournant?
Oui, c'est évident. Bon, déjà, on se rend compte que le plus important c'est que le client soit heureux, qu'il passe un bon moment, que le personnel soit bien aussi. C'est sûr qu'avant l'étoile, tout ça, on l'avait. Et en fait, le fait d'avoir l'étoile, on se dit, est-ce que la clientèle va pas être dans plus d'attente? Est-ce que la clientèle va encore être compatissante, entre guillemets, si on fait des erreurs? Parce que finalement, on n'a que 2 ans et demi d'ouverture, plus le Covid et tout ça, donc c'est un peu compliqué, quoi. Et puis, on est jeune, moi, je suis jeune, j'ai 32 ans, donc j'estime que c'est pas parce qu'on a une étoile qu'on n'est plus des êtres humains, mais le client ne le voit pas de cette façon-là, quoi. Donc, on est quand même un peu sous pression au quotidien. Maintenant, c'est toujours pareil, hein. Moi, j'ai toujours entendu mon père me dire... L'important, c'est pas la situation dans laquelle on est, mais comment on la vit. Je trouve que cette phrase est vraiment vraie. Donc, je m'efforce, si vous voulez, à le prendre avec un peu de recul et à me dire que justement, on est des êtres humains, qu'on est tous jeunes, qu'on a tous besoin aussi d'apprendre encore. Mais j'espère qu'on évoluera encore et encore.
Vous parlez de pression. Est-ce que vous avez aussi la pression de la perdre, cette étoile? Vous la ressentez aussi?
Bien sûr.
Est-ce que ça, vous y pensez?
Bien sûr. Ah là, ça fait un mois, je pense que tous les jours, je dis oh, « les gars, j'espère qu'on n'a pas perdu le temps ». Non, mais c'est horrible, parce que finalement, on se dit qu'avant, on était heureux sans, et que ça allait très bien, et que notre restaurant marchait, enfin que mon restaurant marchait, mais c'est sûr qu'une fois qu'on l'a eu, on est prêt à tout pour la conserver, pour la chérir, pour la valoriser, cette étoile. Donc, parce que c'est beau, parce que c'est grand, parce que c'est la famille du Michelin, quoi.
Oui, est-ce qu'elle a changé quelque chose une nouvelle clientèle, une fréquentation de votre établissement plus importante, cette obtention d'étoiles, est-ce que ça a changé votre quotidien, la façon dont vous travaillez?
Je pense quand même que l'étoile, ça nous permet de remplir en fait le restaurant. Donc les 30% par exemple de taux de remplissage qu'on n'avait pas avant, on les a actuellement. Vous savez, moi je pars du principe que rien n'est acquis et que c'est pas parce qu'on a une étoile. Au début, les 3 premiers mois, les gens viennent parce que vous venez d'avoir l'étoile. Maintenant, si vous faites n'importe quoi, les gens ne viendront plus, étoile ou pas étoile. Donc, je pense qu'au début, c'est un vrai tremplin, mais qu'ensuite, il faut vraiment réussir à mettre cette étoile en valeur, et que ça, c'est un travail de tous les jours, et qu'aujourd'hui, on a du monde dans notre restaurant, c'est pas pour autant qu'on en aura demain, quoi. Donc, oui, c'est lié à l'étoile au début, c'est comme Top Chef, après Top Chef, moi, j'ai fait un carton plein, mais 6 ans après, j'ai vu que ça perdurait, parce que je pense que j'ai fait les choses dans l'ordre. Donc en étant intègre avec moi-même et en étant bien dans mon élément, quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, le guide Michelin nous aide beaucoup, surtout après le Covid. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus rester sur ses acquis et se dire que parce qu'on a une étoile, tout est acquis, quoi. C'est vraiment un recommencement perpétuel.
Alors il y a eu Top Chef, vous l'avez évoqué, les grandes maisons aussi par lesquelles vous êtes passé, le courage d'ouvrir votre propre restaurant et cette étoile dans le guide Michelin. Est-ce qu'elle récompense non seulement votre cuisine, mais également toutes ces années de travail? Toutes les embûches aussi par lesquelles vous avez dû passer?
Ouais, mais pour moi, cette étoile, elle récompense d'abord un travail de groupe, un travail d'équipe, un travail de brigade. Et ça, je pense que c'est quand même la complexité de notre métier, surtout aujourd'hui. C'est d'avoir en fait des personnes autour de vous qui vous ressemblent et qui véhiculent les mêmes valeurs que ce que vous êtes. Et ça, je pense que c'est très compliqué, surtout quand on ouvre avec si peu d'expérience, entre guillemets. Parce que moi, j'ai eu la chance d'être formée dans des grandes maisons, mais c'est pas pareil que d'avoir sa table à soi. Et je pense qu'en fait, ma grande chance, c'est que j'ai été bien entourée dès le début. Donc cette étoile, elle a surtout récompensé ça, en fait, la hargne de chacune des personnes même qui a été dans l'aventure. Puis évidemment, notre travail acharné. Enfin, moi, je sais que j'ai fait tous les travaux de mon restaurant seul. Voilà, tout ça, aujourd'hui, je me dis, je dois rien à personne. Tout ce que j'ai fait, je l'ai bâti de mes propres mains, que ce soit du carrelage au placo, à la réalisation des recettes. Enfin, c'est vraiment un lieu qui me représente et dans beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est un peu ma résurrection, on va dire. Enfin, voilà, celui-là, il représente beaucoup, beaucoup de sentiments, d'émotions, de batailles, entre guillemets, pour moi. Donc, c'est sûr que d'avoir une étoile ici, c'était quand même la grosse, grosse récompense de toutes ces années de travail, de l'équipe aussi qui est engagée à mes côtés, surtout. Mais je pense que c'est aussi beaucoup dans ce qu'on va faire de cette étoile qu'elle va nous porter, en fait, plus loin.
Merci beaucoup, Colline Folquier, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 pour nous parler de votre étoile. Vous êtes chef du restaurant Signature dans le 8e arrondissement de Marseille. On y déguste toujours votre aioli ?
Bien sûr, l'aioli est là tous les jours.
Merci infiniment. Je vous souhaite une très bonne journée.
Au revoir.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h49, 50 même sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité avec Alban Le Prince.
Opération Escargot, barrage, journée d'action hier dans toute la France des professions touchées par les augmentations des prix du carburant. Taxi, pêcheurs, transporteurs, agriculteurs. À Lorient, les représentants d'entreprises ont décidé de lever les blocages. À noter que pour la première fois depuis fin décembre, les prix des carburants sont en baisse sous les 2 euros le litre. Selon les chiffres du gouvernement, le diesel et le samplon 95 sont désormais au même prix, en moyenne 1,97€ le litre. L'actualité ce matin, c'est aussi la mort d'Ivan Colonna, 3 semaines après sa violente agression par un codétenu à la prison d'Arles. Des dizaines de personnes se sont réunies dans la soirée devant le palais de justice de Bastia, dans le calme.
L'actualité est aussi culturelle chaque matin sur Europe 1.
Et le mardi, on ouvre un nouveau livre avec Nicolas Caro. Bonjour Nicolas.
Bonjour Omblin, bonjour Julien.
Nicolas, ce matin, vous nous parlez d'un roman doux et délicat. En tout cas, c'est ce que vous m'avez dit.
Mais oui, un peu de douceur dans ce monde de brutes, franchement. Il s'agit du nouveau roman de Jeanne Benhammer, écrivaine adulée par ses lecteurs. Ce nouveau livre s'appelle « La patience des traces » chez Actes Sud. C'est un livre calme, oui. D'ailleurs, vous allez l'entendre, Jeanne Benhammer parle doucement, clairement, lentement. C'est l'histoire de Simon, donc Simon l'humain, un psychanalyste. Simon l'humain, c'est presque trop beau pour un psy, mais Jeanne Benhammer écrit en fonction de ses sensations.
Là, il y avait Simon, j'étais sûre du prénom. Et l'humain, je l'ai vu quand j'ai écrit qu'il passait sa main sur la plaque où est écrit son nom. C'est le nom que j'ai vu. Et vraiment, je me suis dit, oh bon non, je vais pas mettre l'humain pour un psychanalyste. C'est trop, quoi. Et en même temps, dans la mesure où c'est vraiment ce que j'ai vu, je me suis dit, bah si, je le mets, allons-y.
Et donc, il vit au bord de la mer, ce Simon l'humain, il vit seul, mais il pense beaucoup à son ancien ami qui est parti. Et le roman commence par une rupture, au sens littéral, puisqu'un jour, il casse un bol. Le bol lui échappe et il se casse en deux. Mais ce n'était pas n'importe quel bol, c'était son bol du matin depuis des années, celui face auquel, vous savez, on est dans un état un peu étrange, Jeanne Benhammer.
C'est le bol, quand il se permet de songer, vous savez, cet état entre le sommeil... Et vraiment, le moment où on est lancé dans sa journée, on a ce moment devant son bol où on est un peu dans un entre-deux. Et lui, c'est le moment où il se permet de rêver, où il est libre, finalement. Il y a une liberté.
Son bol est cassé, mais ce n'est pas très grave, Nicolas, si ?
Non, c'est pas très grave, mais ça déclenche chez lui comme un déclic. Et en plus, il est psychanalyste et il est un peu assailli, envahi par les voix et les problèmes des autres. Il sent qu'il devrait peut-être bouger. Il en a l'intuition. Ça nous arrive à tous, selon Jeanne Benhammer.
Je crois que ce sont des états que nous connaissons tous à un moment ou à un autre, où on est bien là, quoi. Notre corps est bien là, assis avec les autres ou à une réunion, etc. Mais où quelque chose nous embarque ailleurs. Et notre pensée travaille par-devers nous. Il y a des images qui nous traversent, plein d'images qui sont là. Simplement, généralement, on ne s'arrête pas sur ces moments. parce qu'on a à faire, parce qu'on a un emploi du temps, parce qu'on est avec d'autres. Donc, hop, on revient vite à ce qu'on appelle la réalité partagée, là, ensemble. Pourtant, ces moments-là, ils existent. Alors, dans la vie de Simon Lhumain, il va s'arrêter, lui, sur ces moments, pour aller voir ce que ça lui apporte.
Et donc, il décide de partir.
Absolument, ça prend un peu de temps, mais il y va et il choisit un endroit où il ne peut pas comprendre le langage, il a besoin de silence, ce sera le Japon, mais pas Tokyo et les grandes villes, un coin isolé, loin du bruit, là-bas il rencontre un couple, lui est céramiste et pratique le kintsugi.
Le quoi Nicolas ?
Le kintsugi, c'est l'art de réparer, mais en magnifiant la brisure. C'est-à-dire que plutôt que de recoller parfaitement un bol, par exemple, sans qu'on ne voit plus rien, l'endroit de la fêlure est décoré, mis en valeur. Vous avez compris, c'est un roman plein de symboles. C'est un roman de rêveur aussi, un roman presque méditatif. C'est court, à peine 200 pages, mais ça reste en vous.
La patience des traces, donc, de Jeanne Benhammer. Merci beaucoup, Nicolas Carreau. Et à dimanche, entre 14h et 15h, pour votre émission La Voix est libre sur Europe 1.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57 sur Europe 1. Dans un instant, la météo, le journal et un engin qui va très vite.
Je vous présente le missile hypersonique, la dernière trouvaille de l'armée russe qui en a utilisé pour la première fois ce week-end en Ukraine. On parle là d'un projectile filant minimum à Mach 10, soit 10 fois la vitesse du son. Ça donne du 3 km seconde et qui en plus reste manœuvrable pour échapper au système de défense ennemi. Bref, une arme redoutable qui inquiète tous les états-majors occidentaux car les Russes sont les seuls pour l'heure à maîtriser cette technologie. Alors pour autant, était-ce justifié d'utiliser de tels missiles en Ukraine ? Est-ce que ça ne serait pas l'arbre qui cache la forêt, histoire de masquer les faibles progrès de l'armée russe sur le terrain ? On en parle dans une dizaine de minutes avec le spécialiste en aéronautique Xavier Tittelmann. Et puis juste après, on bline votre partition.
Une chanteuse à part dans le répertoire français. Elle chante en anglais et en français, selon la mélodie, dit-elle, Karen Anne, l'héroïne de la partition dans 20 minutes.
La météo du jour, Anissa Haddadi, tient en trois mots, une belle journée.
Exactement, un beau soleil qui s'impose sur quasiment toute la France. Au bord de la Méditerranée, on n'a plus de pluie comme hier, mais on a toujours quelques nuages qui traînent sur le golfe du Lion, entre Perpignan et Montpellier. Alors ça ne va pas venir gâcher l'impression de beau temps, parce qu'en plus cet après-midi, les nuages vont se dissiper. Aujourd'hui, c'est plutôt du côté de la façade atlantique que c'est un petit peu plus couvert. On a des nuages sur la pointe bretonne ce matin, quelques petites gouttes sur le Finistère, quelques petites gouttes également possibles sur les Pyrénées-Atlantiques dans le Pays Basque. Le vent souffle également dans cette belle journée. On a du vent. Alors ça se passe dans le sud et dans le sud-ouest en particulier avec des rafales de vent d'OTAN. Il est toujours là ce vent d'OTAN.
Ah, le fameux.
Et le fameux vent
d'ouest
d'OTAN.
En est.
Exactement, qui vient de la Méditerranée et qui s'engouffre jusqu'aux plaines toulousaines et qui aujourd'hui va souffler jusqu'à 110 km/h. Donc ça souffle bien fort. On a un petit peu de fraîcheur ce matin, malgré cette belle journée. Bah, normal, hein, on est fin mars, on a moins 3 à Manosque, moins 2 à Charleville-Mézières, un petit degré pour Lyon, 3 à Aurillac et à Nantes, 7 à Paris et Aurillac et 9 degrés à Brest. Cet après-midi, la douceur s'installe. Donc ce matin, petit tour de cou, cet après-midi, belle lunette de soleil, 12 à Aurillac, 15 à Nice et Cherbourg, 17 pour Marseille et Perros-Guérec, 18 à Paris et 19 à Lille et Bordeaux.
Tour de cou, lunette de soleil, le look façon Anissa Haddadi. Merci beaucoup, vous écoutez Europe 1. Soyez les bienvenus, bonne journée à tous. Nous sommes le mardi 22 mars. Et il est 6h. À la une, les prix du carburant en baisse, moins de 2 euros le litre. Pas de quoi calmer la colère des transporteurs et des agriculteurs. Ils bloquaient des dépôts pétroliers hier. Ils ont été délogés par des CRS. Reportage près de Lyon dans un instant. Qui a tué l'ex-rugbyman argentin Martin Aramburu, assassiné à Paris samedi dernier. Le principal suspect, un militant d'extrême droite, déjà condamné 4 fois. Son portrait dans cette édition. Et puis à la fin du journal, nous irons au théâtre pour la nouvelle pièce d'Isabelle Carré et de José Garcia. Un couple sur scène qui rembobine sa vie conjugale.
Europe Matin, Omblin.
Colin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Romane Hoquet. Bonjour Romane.
Bonjour à tous. La pression s'accentue sur les géants français de l'énergie, producteurs de gaz et de pétrole. Selon le Figaro, l'exécutif réfléchit à une taxe exceptionnelle pour empêcher, je cite, des super profits sur le dos des Français, selon un conseiller de Bercy.
Des compagnies qui profitent de la flambée des cours de l'énergie. Les prix baissent, certes, mais tutoient toujours des sommets à cause de la guerre en Ukraine. 1,97€ en moyenne aujourd'hui en France, c'est le prix du litre de samplon 95.
Le Premier ministre, invité du 20h de TF1, a promis un dispositif supplémentaire pour les travailleurs, mais pas sûr que cela apaise la colère des agriculteurs et des transporteurs qui bloquaient hier les dépôts pétroliers de Lorient, Ajaccio ou Fezin, près de Lyon. Le reportage de notre correspondant Jean-Luc Boujon.
C'est la mort dans l'âme et la rage au cœur que les transporteurs routiers et les agriculteurs ont levé leur blocus hier en fin de journée. Face aux nombreux CRS qui commençaient à se masser près du dépôt de carburant, ils ont donc fini par déplacer leurs camions et leurs tracteurs et à renoncer à la confrontation. Mais la colère était réelle, comme en témoigne cette discussion houleuse avec le préfet qui leur demandait de partir.
La politique de la force et du blocage, ça n'amène rien.
Dites-nous, on fait quoi, préfet, comment on fait quoi? On crève la bouche ouverte? Dites-nous comment on fait?
On est des simples citoyens, on défend notre croupe.
Donnez-nous ce qu'on veut,
on veut gagner notre.
Vous ne l'obtiendrez pas. Donc on va crever la bouche ouverte. Bande de toquins, les politiciens.
Une colère et une amertume qui s'expriment aussi chez Emmanuel Arandel, paysan venu de Savoie, meurtri de devoir renoncer.
Là, on est dégoûté parce que le combat est juste. C'est simplement la survie des fermes. Malheureusement, ils nous ont dit vous dégagez ou on va vous rentrer dedans. Donc, comme on leur a dit, n'oubliez pas que nous, on nourrit vos enfants. Et quand il n'y aura plus de paysans, comment vous ferez quoi? Je pense que le gouvernement, il ne se rend pas compte de la gravité de la situation. C'est sûr qu'on va s'organiser et qu'on reviendra et qu'on va pas en rester là.
Des actions à venir et un désespoir patent que le pouvoir ne peut se permettre de négliger à moins de 3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Fezin, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Les restrictions sanitaires ont-elles été levées trop rapidement? Question soulevée par plusieurs spécialistes face au rebond de l'épidémie de Covid.
En plus, 36% de nouveaux cas quotidiens en une semaine, de la fatigue, des douleurs à la tête et parfois d'autres symptômes persistants plus de 3 mois après l'infection. Un mal que l'on appelle le Covid long. 700 000 Français seraient concernés et 10% auraient même besoin d'une prise en charge spécifique selon le ministère de la Santé qui vient de lancer un plan d'action. Yasmine Akatou.
Oui, grâce à une enveloppe de 20 millions d'euros pour structurer l'offre de soins pour le Covid long. D'abord, grâce aux 130 cellules post-Covid déjà installées sur toute la France. Ce sont vers ces cellules que les médecins généralistes renverront les patients qui nécessitent d'être réorientés. Le gouvernement va adresser aux professionnels de santé une feuille de route qui détaillera la prise en charge. Un parcours de soins avec des spécialistes du Covid long dont bénéficie déjà Mathieu Lestage, membre de l'association de malades après J20, contaminé il y a un an et demi, l'ancien militaire de 40 ans souffre de plusieurs symptômes.
Ce qui m'a vraiment handicapé dans ma vie courante, ce sont les problèmes de gestion à l'effort, comme si mes jambes ou mon corps ne pouvaient plus me porter. Et malheureusement, je me déplace en fauteuil roulant. C'est un suivi médical quotidien. Pour le moment, nous ne sommes pas sur de la guérison, mais juste sur de l'amélioration du quotidien.
Pour espérer que les patients comme Mathieu guérissent, 10 millions d'euros ont déjà été investis. Le ministère de la Santé souhaite ajouter 10 millions d'euros supplémentaires pour faire avancer la recherche.
Yasmine Akatou, la mort d'Ivan Colonna va-t-elle embraser à nouveau la Corse? Le militant indépendantiste est décédé hier soir à Marseille, là où il avait été hospitalisé après une tentative d'assassinat au début du mois. Une agression qui avait eu l'effet d'une déflagration sur l'île. Lors d'un déplacement la semaine dernière, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'était dit prêt à discuter de l'autonomie du territoire.
Et on reviendra sur la disparition d'Ivan Colonna dans le journal de 6h30. Une femme de 24 ans à présent devrait être mise en examen aujourd'hui, 3 jours après l'assassinat de Federico Martin Aramburu.
L'ancien joueur de rugby argentin a été tué par balle samedi matin à Paris. Une enquête a été ouverte. La jeune femme en garde à vue aurait servi de chauffeur au principal suspect, un militant d'extrême droite, Gladys Laffitte.
Eh bien, à 27 ans, le jeune homme est déjà bien connu de la police et de la justice puisqu'il a été condamné 4 fois, principalement pour violence. Il doit d'ailleurs être jugé en juin avec 4 autres ex-membres du GUD, un groupuscule d'extrême droite dissous. Il s'agit d'une affaire de règlement de compte entre militants en 2015. L'un d'eux a été tabassé, humilié de manière extrêmement violente par ses ex-camarades, dont l'homme actuellement recherché. À l'époque, il avait filmé la scène, porté des coups. Dans l'une des vidéos, on l'entendait d'ailleurs se vanter d'avoir buté plus d'un mec. C'est un ancien militaire, il a servi à Djibouti dans la marine avant d'être rapatrié il y a 7 ans après l'apparition d'une pathologie post-traumatique. Il est décrit comme hyper violent par un connaisseur de la procédure, procédure dans laquelle le jeune homme a été libéré sous caution et placé sous contrôle judiciaire. Il avait depuis l'interdiction de paraître en Île-de-France.
Gladys Laffitte.
Si vous aviez une baguette magique, que voudriez-vous changer dans votre passé pour améliorer votre présent ?
Une question posée par la nouvelle pièce du Théâtre du Rond-Point à Paris, dans Biographie, un jeu, J-E-U. José Garcia et Isabelle Carré retouchent et rembobinent leur vie conjugale. Marie Jiquel faisait partie des spectateurs. Reportage.
C'est un personnage entre le héros d'une tragédie grecque et le mari trompé d'un vaudeville. Mais Kurman, interprété par José Garcia, a l'opportunité de rejouer les grandes scènes de sa vie, de réécrire sa biographie.
Et je veux qu'elle s'en aille,
oui, pour qu'elle ne devienne pas votre femme.
Et donc d'effacer de son récit son ex-femme Antoinette, la comédienne Isabelle Carré.
Ce que ça offre aux spectateurs, c'est un peu comme si on les faisait rentrer dans une répétition en fait. Un peu comme s'ils voyaient comment nous, les acteurs, on se débrouille avec un texte compliqué comme ça, qu'on revisite, qu'on rejoue autrement.
Est-ce qu'il va falloir maintenant répéter tout ça, même ce qu'on n'a pas envie de changer, même le bonheur, même les moments de tendresse?
Oh non, c'est pas possible. On pourrait pas sauter?
Quoi, tout?
Les joies, surtout.
Alors oui, l'histoire d'amour disséquée sur scène fut douloureuse, mais faut-il tout jeter ? Deux accessoires incarnent ce dilemme dans cette pièce divertissante et philosophique, le jeu d'échecs et ses parties contrôlées, ou la boîte à musique et son mécanisme répétitif.
La biographie, un jeu, c'est jusqu'au 3 avril au Théâtre du Rond-Point à Paris.
Merci beaucoup Romain Oquet pour ce journal.
Il est 6h06, on passe au sport. Le journal des sports avec Martin Lange et on commence avec du foot. Martin, le rassemblement des Bleus à Clairefontaine.
Oui, avec un petit nouveau, William Saliba, le défenseur de l'OM, 20 ans, remplace Benjamin Pavard, positif au Covid. Parmi les 23, il y a aussi un revenant, Olivier Giroud, qui a pris la place de Karim Benzema, blessé. L'occasion pour le Milanais de revenir durablement chez les Bleus. Le sélectionneur Didier Deschamps préfère botter en touche.
Comme je vous l'ai toujours dit, c'est un joueur qui est resté sélectionnable. Il fait partie des 23... Pour ces deux matchs-là, ne me demandez pas après dans le futur. Déjà, il est là aujourd'hui.
Les Bleus qui affrontent la Côte d'Ivoire vendredi et l'Afrique du Sud mardi prochain. À la page foot, il y a aussi de la Ligue des Champions féminines ce soir et le PSG se déplace en Allemagne, quart de finale aller contre le Bayern Munich.
On passe au basket avec une polémique en vue des JO 2024.
Oui, la semaine dernière, on a appris que le tour préliminaire du tournoi de basket aurait lieu au Parc des Expositions, porte de Versailles et non plus à Bercy. Depuis, tous les internationaux, un vice-champion olympique à Tokyo l'été dernier, sont vent debout contre ce choix. Dernier en date, le pivot Rudy Gobert.
Une équipe de France qui vient de gagner une médaille d'argent aux Jeux Olympiques. C'est dommage, c'est une opportunité pour moi qui est manquée. J'ai pas joué dans une salle où je me cogne la tête en shot, quoi. Donc ça n'a pas de sens.
En bref, pour finir, Martin.
Le monde du cyclisme qui retient son souffle, le champion d'Europe italien Sonny Colbrelli a été victime d'un malaise cardiaque hier sur le Tour de Catalogne. Transporté en soins intensifs, son état est jugé stable. Et puis bien plus léger pour finir, on a retrouvé le trophée des 6 nations. Il n'a pas fini dans la Seine après la troisième mi-temps victorieuse contre l'Angleterre. Contrairement à ce qu'avait imaginé l'ailier Damien Penaud, il est bien au chaud dans la salle des trophées de Marcoussis.
Et on est rassurés. Merci beaucoup Martin Lange, c'était le journal des sports.
Restez avec nous dans un instant. Cette question, c'est quoi les missiles hypersoniques utilisés pour la première fois par la Russie ce week-end en Ukraine. On en parle dans un instant avec le spécialiste en aéronautique Xavier Titelman. À tout de suite.
5h, 6h30.
Europe Matin.
Bon début de matinée avec nous sur Europe 1, il est 6h11. Votre invité Julien est un ancien aviateur militaire spécialiste en veille opérationnelle des médias sociaux chez Air et Cosmos.
Bonjour Xavier Titelman.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous pour nous éclairer sur une nouvelle arme étrennée ce week-end par l'armée russe en Ukraine, les missiles hypersoniques dits Kinjal. Moscou affirme en avoir utilisé deux pour détruire un entrepôt souterrain d'armement ainsi qu'un dépôt de carburant dans l'ouest du pays. On va s'interroger avec vous dans un instant sur la stratégie derrière ces tirs. Mais avant, pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est quoi un missile hypersonique ?
Alors, c'est simplement lié à sa vitesse. C'est un missile qui est capable d'aller au-delà de Mach 1. Et donc là, en l'occurrence, c'est Mach 10. Il va à 12 000 km/h. Il a une portée d'à peu près 200 km. Et il porte une charge conventionnelle, c'est-à-dire une bombe normale, d'à peu près 500 kg.
Donc, contrairement à un missile balistique, typiquement ceux qui portent des ogives nucléaires, les missiles hypersoniques volent très bas et ont des trajectoires changeantes. C'est ce qui les rend si dangereux et si létales ?
Alors, le grand avantage, effectivement, c'est qu'ils peuvent évoluer à différentes altitudes, qu'ils peuvent changer de trajectoire, alors que les missiles qu'on utilise d'habitude, et même les missiles balistiques, peuvent être à charge conventionnelle. La Russie en a utilisé des dizaines et des dizaines contre l'Ukraine. Eh bien, ceux-là sont très difficiles à intercepter, tout simplement parce qu'on ne peut pas prévoir leur trajectoire. Et donc, on ne possède pas de système pour arrêter ces systèmes et ces missiles, alors que tous les autres, quasiment, on est capable de les arrêter.
Il n'y a que la Russie, à l'heure actuelle, qui maîtrise cette technologie ?
Oui, très clairement, ce sont les seuls qui possèdent ce système. Il a été développé notamment pour contrebalancer l'absence de flotte, notamment de porte-avions, par la Russie. Parce que avec ça, en gros, ils peuvent interdire l'accès à la mer Noire à tout navire américain qui pourrait se présenter.
Mais d'autres pays sont en train de plancher sur cette technologie, sur des missiles hypersoniques, les Américains, la France, la Chine ?
Alors, on a des missiles hypersoniques, mais on les a utilisés uniquement pour l'arme nucléaire. Donc l'intérêt pour les Russes, évidemment, qu'ils peuvent utiliser cette arme-là d'une manière conventionnelle, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Et les Américains, du coup, essaient de rattraper leur retard assez rapidement. Donc certainement, dans les prochaines années, ils auront également des missiles hypersoniques. Et la France travaille sur un planeur hypersonique qui est à la génération encore suivante, parce qu'il n'y a plus de propulsion, donc ce n'est pas détectable du tout par celui qui serait visé. Et ça s'appelle le VMAX, ce sera certainement testé dans les prochains mois.
Bon, est-ce que ça avait un sens, d'un point de vue purement stratégique, d'utiliser ce type de missile en Ukraine ce week-end ?
Alors, militairement, absolument pas. L'effet sur le terrain est exactement le même que si vous utilisez un missile classique, et ils en ont tiré réellement des centaines depuis le début du conflit. Donc l'effet militaire, il est nul, ça coûte particulièrement cher. Par contre, c'est un signal. C'est un signal contre l'OTAN pour leur dire « attention, même si vous fournissez de nouveaux systèmes de défense à l'Ukraine, et c'est ce que les États-Unis ont prévu de faire, eh bien nous, on pourra continuer à taper plus ou moins là où on le souhaite ». Et c'est un signal également pour interdire un souhait de soutenir l'Ukraine en envoyant par exemple des bateaux dans la mer Noire.
Donc pour vous, c'est de la com.
C'est réellement purement de la com, mais c'est assumé. Taper sur un dépôt de carburant, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel type de missile qui coûte 10, 15, 50 fois moins cher. Mmh. On n'a pas besoin d'utiliser un missile hypersonique, c'est réellement de la com.
Est-ce que c'est aussi une manière de masquer le manque de progrès de l'armée russe sur le terrain ? Est-ce que c'est un aveu de faiblesse en quelque sorte ?
En tout cas, c'est de leur part une volonté qu'on a de parler de leurs difficultés. On le voit, ils sont embourbés, ils ont énormément de difficultés à avancer. En gros, ils ont plus avancé sur les trois premiers jours du conflit que sur les trois semaines qu'on suivit. Et donc, aujourd'hui, ils essaient simplement de montrer un petit peu leur puissance en montrant des armes qui sont nouvelles. Effectivement, on en parle beaucoup parce que c'est quelque chose qui est inédit. Ça, certainement pour remonter un petit peu le moral des troupes également, parce qu'on a quand même déjà 10 000 morts côté russe, plus de 1600 véhicules russes qui ont été détruits. On parle simplement des éléments qui sont avérés, dont on a les preuves en source ouverte disponibles sur Internet. Donc on sait que vraiment ça avance beaucoup plus difficilement que ce qu'ils pouvaient imaginer. Et là, ils veulent simplement rappeler à tout le monde, on a quand même des armes géniales. Ça me fait un petit peu penser à Hitler avec son V2. Il avait le V2, c'était extraordinaire, c'était très en avance, mais ça n'a pas changé le cours de la guerre.
Mmh. Xavier Tittelmann, pour certains observateurs, si l'armée russe a utilisé ses Kinjal, comme on dit, ses missiles hypersoniques, c'est parce qu'elle aurait déjà épuisé son stock de bombes et missiles guidés plus conventionnels. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, alors ça, c'est très très probable. Il doit en rester un petit peu, mais la réalité, c'est qu'on observe que les avions de chasse russes volent à une altitude qui est anormalement basse. Or, normalement, les avions de chasse, on vole haut, au-delà de la portée des missiles qui sont tirés depuis l'épaule, parce qu'avec les munitions guidées, ça permet quand même de taper notre objectif sans se mettre soi-même en danger. Mais quand on n'a plus de missiles guidés, on est obligé de voler très bas pour essayer de larguer des bombes qui ont un minimum de précision. Et en volant très très bas, c'est ce qu'on observe, ils font voler leurs avions de dernière génération en très basse altitude pour balancer des bombes qui sont des bombes qui datent d'il y a 50 ou 60 ans, qui n'ont aucune précision, qui ne tapent pas dans leur objectif, qui tombent dans les villes, qui tombent dans les résidences.
D'où les pertes civiles.
Et d'où des pertes civiles, mais en même temps, d'où des pertes de ces avions de chasse. Et donc c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Ils ont des avions de chasse de dernière génération, mais ils n'ont pas des munitions qui coûtent très cher qui vont avec. Oh. Et c'est pour ça qu'ils utilisent aussi ces systèmes alternatifs.
En tout cas, ces missiles hypersoniques, vous l'avez dit, doivent coûter une fortune. C'est tout le contraire de l'une des armes utilisées par les Ukrainiens, les drones Bayraktar. Ce sont des engins de fabrication turcs. Ils sont très efficaces depuis le début du conflit.
Oui, et c'est vraiment étonnant. On parle d'un drone qui doit coûter à peine quelques millions de dollars, qu'ils avaient acheté à une poignée, donc ils avaient certainement une dizaine d'exemplaires au début de la guerre. Et ces drones avaient été utilisés contre des équipements de l'époque soviétique sur différents théâtres, notamment en Arménie et en Libye. Et il y avait eu une efficacité qui était intéressante, et les Russes avaient dit « oui, mais c'est parce que les Arméniens utilisent du matériel qui date d'il y a 50 ans, nous, vous allez voir, on a tout modernisé ». La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les drones, ils continuent à voler, il y a des pertes évidemment, mais ils ont un effet qui est incroyable sur le terrain, évidemment un effet psychologique, parce que c'est avec une dizaine de drones, c'est pas non plus quelque chose qui renverse le cours de la guerre, mais ils arrivent à viser et à taper juste, ils tapent les centres de commandement, ils tapent l'approvisionnement, l'objectif c'est de mettre toute cette armée en panne d'essence, et ils y arrivent aujourd'hui. Les Ukrainiens arrivent à taper l'approvisionnement et la logistique russe au point que certains villages sont repris parce que simplement ils abandonnent leur matériel en panne d'essence sur place.
Merci beaucoup Xavier Tittelmann d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes spécialiste en aéronautique pour Air et Cosmos et j'invite nos auditeurs à consulter votre chaîne YouTube où l'on apprend plein de choses sur l'aéronautique. Bonne journée à vous et à bientôt sur Europe 1.
Bonne journée.
Vous restez avec nous dans un instant, la partition de Keren Ahn. À tout de suite.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h20 sur Europe 1, le journal permanent. Les principaux titres de ce mardi avec Alban Le Prince.
Et on a appris hier soir la mort d'Ivan Colonna, l'indépendantiste corse condamné pour l'assassinat du préfet Erignac. Avait été violemment agressé il y a 3 semaines par un codétenu à la prison d'Arles. À l'annonce de son décès, quelques dizaines de personnes se sont réunies dans le calme devant le palais de justice de Bastia. En Ukraine, couvre-feu jusqu'à 6h ce matin, heure française à Kiev, la capitale ukrainienne, où un centre commercial a été bombardé hier faisant au moins 8 morts. Moscou assure avoir ciblé une cache d'armes. Dans le scandale des EHPAD Orpea, Le Monde révèle une partie du pré-rapport d'enquête administrative. Les premiers éléments confirment les économies réalisées par le groupe grâce à l'argent public. L'intégralité du rapport doit être rendue publique cette semaine.
On conclut avec votre partition en ligne consacrée à une artiste à part dans le paysage de la pop française, Keren Ahn, qui repart sur les routes accompagnée du quatuor Debussy.
Quatuor à cordes, Julien, avec lequel Keren Ahn réinvente ses plus beaux morceaux. La chanteuse au timbre fragile célèbre ses 20 ans de carrière en proposant une version inédite et réarrangée de son répertoire. Wake up slowly.
J'imagine cette association élégante n'était pas faite pour durer.
Keren Ahn et le quatuor Debussy devaient jouer ensemble uniquement le temps d'une soirée. C'était il y a 5 ans, mais de ce coup de foudre mutuel sont nés d'abord une tournée, puis un album paru en février dernier. Un disque composé notamment d'un extrait de chacun de ses 8 albums à elle.
Alors même si depuis 20 ans Keren Ahn fait parler d'elle grâce à ses projets solo, elle a toujours travaillé et chanté avec d'autres artistes.
Oui, et pas uniquement des musiciens et des chanteurs, des réalisateurs de films aussi, des metteurs en scène de théâtre et des chorégraphes. Keren Ahn commence d'ailleurs sa carrière aux côtés de Benjamin Biolay. Ils vont forger ensemble son premier album, la biographie de Lucas Philipsen.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver.
Ce jardin d'hiver aux airs caribéens triomphe lorsqu'il est repris par Henri Salvador dans son album Chambre avec vue façonnée avec l'aide du tandem.
Alors c'est elle protectrice de Benjamin Biolay, Keren Ahn va s'y emmitoufler encore un peu.
Oui, le temps d'un deuxième album avant que son protecteur aille exercer ses talents de guide et de mentor un peu plus loin.
Dès lors, Keren Ahn ne va cesser d'entreprendre et de s'affirmer.
Oui, Keren Ahn compte surtout incarner pleinement son statut de citoyenne du monde. Née en Israël, elle a grandi aux Pays-Bas avant de s'installer à New York, puis dans le quartier de Montmartre à Paris, autant de lieux qui ont nourri son écriture et sa musique à la beauté mélancolique. Influencée par Eric Satie, Leonard Cohen et Bruce Springsteen, chacune de ces balades folk nous plonge dans des épisodes de sa vie où quoi qu'il arrive, l'amour transparaît, qu'il soit perdu, toxique ou heureux.
Seems like every story told about us isn't meant to be. We fly our wings of gold all the way back home to me. But what I'm thinking of just this. Yes.
this time? Why don't you lay your head down in my arms, in my arms? Lay your head down in my arms.
Extrait de son album de 2007, Kerenan avec Lay Your Head Down, morceau qu'elle a repensé, réorchestré, réenregistré en compagnie du Quatuor Debussy. L'album est disponible et rendez-vous ce soir sur la scène du théâtre de Montbéliard dans le Doubs. Kerenan et le Quatuor Debussy seront aussi à Grasse, à Romans-sur-Isère et puis au Trianon à Paris le 3 octobre.
C'est très joli, merci beaucoup Ombline. Merci. Vous restez avec nous, la matinée se poursuit dans un instant avec Dimitri Pavlenko, à tout de suite.